Bonjour Sandra. Hier après-midi, Nathéo, mon fils, a eu une idée, c'était de tirer les cheveux de sa maman. Et du coup, je l'ai grondé. Et sa réaction m'a étonné. Il a pleuré, mais il a couru dans mes bras. Personnellement, quand on me gronde, je... J'aimerais vous proposer ce matin de poursuivre notre parcours dans les psaumes pour voir justement l'attitude d'un roi qui a été sèchement repris par Dieu et qui a fait aussi ce choix, plutôt que de courir loin de Dieu, de revenir vers Dieu. J'aimerais lire avec vous le psaume 51. Le psaume 51 qui dit ceci. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute. Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Ce psaume commence en disant. Verset 2, lorsque le prophète Nathan vint dire à David qu'il avait commis un adultère avec Bathsheba. Un élément de contexte, David est le roi d'Israël, c'est un homme de guerre et chaque année il y avait des campagnes militaires. Cette année-là, David choisit de rester à Jérusalem et il voit une femme très belle, mariée, avec qui il commet un adultère. Puis, il s'arrange pour que son mari, qui est un soldat, meure sur le champ de bataille. Et au final, cette femme est enceinte. Elle a un enfant qui naît et quelques jours après, il meurt. L'attitude de David est donc une attitude terrible, parce que non seulement il y a ce problème d'adultère, mais en plus, son attitude est à l'origine de deux morts. Et donc, également d'une veuve. En fait, David ne réalise pas ce qu'il fait, jusqu'au moment où une personne vient vers lui, lui parler de la part de Dieu, et lui dire « Voilà que ce que tu as fait, c'est vraiment n'importe quoi, et Dieu est en colère contre toi. » Et David, lorsqu'il réalise ça, réalise et dit la chose suivante, j'ai péché contre l'Éternel. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 12. J'ai péché contre l'Éternel. Et aussitôt, la personne qui est venue voir David dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. On a l'impression que David a commis quelque chose de terrible, mais lorsqu'il réalise ce qu'il a fait, qu'il réalise qu'il a péché contre l'Éternel, aussitôt, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, ce qu'il a fait laisse des traces et vient largement bouleverser toute la manière dont David conçoit sa relation avec Dieu. Et ce que j'aimerais voir avec vous à travers ce passage, c'est comment David réagit-il au choc qui est celui de réaliser ce qu'il a fait, et de réaliser que ce qu'il a fait, il l'a fait pas seulement contre des hommes, mais aussi contre Dieu. Il se trouve que c'est un psaume qui m'a fait énormément réfléchir sur, notamment sur les illustrations. Parce que je pourrais faire plein de parallèles avec ma propre vie, vous étaler les raisons pour lesquelles j'ai péché ici ou là, etc. Mais en réalité, je ne suis pas David. Il se trouve que David ici a une particularité, c'est ce qui nous est dit, verset 1. David adresse son psaume au chef de cœur. Ça veut dire que ce que nous dit David ici est quelque chose qu'il souhaite rendre public. David est roi d'Israël et il souhaite que l'ensemble du peuple entende ce qu'il a fait et entende ce qu'il fait de ce qu'il a fait. David est roi et pourtant il ne veut rien cacher. Vous en avez entendu beaucoup comme ça, des chefs d'État qui lancent sur la place publique, alors qui ont des problèmes, oui, mais qui sur la place publique vont s'excuser pour ce qu'ils ont fait. Vous savez que le président des États-Unis, Richard Nixon, qui était donc président à la fin des années 60, début des années 70, est un des présidents qui est célèbre parce qu'il a démissionné. Et il a démissionné parce que il y avait des preuves accablantes contre lui qui prouvaient qu'il avait mis sur écoute l'ensemble du parti politique opposé, les démocrates, et puis l'ensemble de la Maison Blanche, tant qu'à faire. Un câble de plus ou de moins, un micro de plus ou de moins, c'était pas un problème. Il se trouve que Nixon, jusqu'à la dernière minute, n'a jamais voulu reconnaître ce qu'il avait fait et ce qu'il avait organisé. Et il a fallu qu'il soit menacé d'être destitué par le Congrès pour qu'enfin il prenne ses responsabilités, démissionne et s'excuse du bout des lèvres. Mais ici, ce qui est incroyable, c'est que nous avons un roi qui est à une place d'autorité et qui n'y va pas par quatre chemins pour reconnaître ce qu'il a fait. C'est donc un psaume public parce que David a conscience que ses actions sont un mauvais exemple pour le peuple, dont il a la responsabilité, mais il a conscience aussi que tout ce qu'il peut mettre en place pour se rapprocher et retrouver la paix avec Dieu peut aussi être quelque chose qui peut faire du bien au peuple. Ce qui m'amène à deux remarques. La première, c'est que ici, ce que nous apprenons dans ce psaume, ce sont des principes généraux sur la manière dont nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Ce ne sont pas des principes qui s'appliquent spécifiquement au cas des péchés de David, que sont l'adultère ou que sont le meurtre, mais ce sont des principes qui peuvent s'appliquer à toutes les situations de péché dans nos vies. Deuxième remarque, c'est un psaume. J'aimerais pouvoir prendre chaque mot l'un après l'autre et dire des choses dessus, tellement ce psaume est riche et extraordinaire. Et en même temps, je dois m'avouer très modeste par rapport à ce qu'il y a à dire sur ce psaume, parce que c'est un psaume qui fait énormément réfléchir, qui bouleverse le cœur et qui, ce matin, va être abordé de manière très simple, très basique. Mais si vous voulez aller plus loin, on peut en reparler après. Je vous propose de voir donc trois choses. Premièrement, la vulnérabilité du roi David. Deuxièmement, le dilemme du roi David. Et enfin, la réponse du roi des rois. La vulnérabilité du roi David, le dilemme du roi David, et enfin la réponse du roi des rois. Pourquoi peut-on parler d'abord de la vulnérabilité du roi David? Et tout simplement parce que dans ce psaume, le roi David nous dit tout sur le péché. C'est véritablement une sorte d'abécédaire du péché qu'il nous donne ici. Alors, premièrement, il faut commencer par ça, David nous explique ce qu'est le péché. Verset 3, verset 5, verset 15, il emploie l'expression de transgression. Verset 4, verset 11, il emploie le mot faute. Verset 6, il dit que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et encore, il explique que le péché appelle un jugement. Par conséquent, Henri Blocher, le théologien, a cette expression pour définir le péché. C'est tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui est convoité contre la loi éternelle, contre la loi de Dieu. Le péché, c'est donc enfreindre la loi que Dieu propose. C'est le fait de ne pas être conforme à la loi de Dieu. Ce qui veut dire, j'aimerais préciser tout de suite, que lorsque je transgresse la loi, je peux avoir un sentiment de culpabilité. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que je me sens coupable que je suis coupable. Ce n'est pas non plus parce que je me sens coupable que je ne suis pas, que je le suis forcément ou que je ne suis pas forcément. L'idée, c'est que le péché se définit dans ce psaume comme étant quelque chose que j'ai fait qui est contraire à la loi de Dieu. Et puis, il y a une autre définition qui est que le péché, c'est lorsque nous prenons nos désirs naturels, nos aspirations personnelles, nos ambitions pour les buts ultimes de notre vie. En clair, on transforme nos rêves ou nos souhaits ou nos désirs en un Dieu qui vient, auquel on se soumet et qu'on est prêt à suivre. David, lorsqu'il commet son adultère avec Bathsheba, a mis sa passion et son désir de cette femme au-dessus de ce que Dieu voulait. Le péché, c'est donc faire quelque chose qui est différent de ce que Dieu aime. Alors là, vous allez me dire, mais moi, je ne suis pas concerné parce que Dieu est un concept qui est théorique, qui n'est pas forcément très concret, etc. Certes, mais on a tous un rapport moral, un amour de la liberté, un amour de une conscience qu'on doit respecter notre prochain, etc. Et cette morale-là, en soi, est une loi pour nous. Et lorsque je transgresse cette morale, eh bien, je suis aussi dans une situation où j'ai transgressé une norme, j'ai transgressé une loi, et où je réalise que j'ai des choses à réparer. Bah, c'est exactement la même chose. Lorsque on lit, en fait, la Bible, on découvre que Jésus dit cette phrase incroyable, il dit « Le premier des commandements, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. » Et le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Chaque fois où je me permets de ne pas aimer Dieu par les choix que je fais, par les actions que je fais, chaque fois que je me permets de ne pas aimer mon prochain par les actions que je fais, etc., eh bien, je pêche tout simplement. Deuxièmement, le péché est salissant. Verset 4, David dit, « Lave-moi complètement de ma faute. » Verset 5, « Mon péché est constamment devant moi. » Le péché me salit, et me salit d'une manière telle que, ensuite, c'est comme une tache que je vois devant moi et que dont je peux... Vous avez déjà fait l'expérience de prendre une feuille de papier blanche, vous mettez une petite croix quelque part dans un coin, puis vous dites aux gens, qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille ? Bien, naturellement, on va répondre une petite croix noire. On va pas répondre une feuille blanche. C'est ce qui se passe avec David, ici. Ce qu'il a fait, la faute qu'il a commise, lui saute aux yeux et lui colle aux yeux. Il n'arrive pas à s'en défaire. Troisièmement, le péché de David est un péché qui est contre Dieu. Verset 6, il dit, « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Il y a une autre histoire où l'on trouve cette expression dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, il nous a rapporté l'histoire de Joseph. C'est une histoire qui a été étudiée ici en étude l'année passée. Dans l'histoire de Joseph, Joseph est un esclave au service d'un Égyptien très riche. Et il se trouve que sa femme lui fait des avances. Que la femme donc de cet Égyptien très riche fait des avances à Joseph. Et elle lui dit la chose suivante. « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Mon mari ne m'a rien interdit. » Et Joseph répond. « Si, si, il y a une seule chose qui m'est interdite. » C'est toi, parce que tu es la femme de mon maître. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et péché contre eux ? Et il ne dit pas contre mon maître. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et péché contre Dieu ? Quelqu'un a dit que justement, on réalise ce qu'est le péché le jour où on réalise que lorsque je pêche, je ne pêche pas... contre un tel ou une telle, je pêche d'abord contre Dieu. C'est Dieu lui-même qui est offensé. Lorsque Paul raconte encore et encore son témoignage dans les Épîtres, à chaque reprise, il explique qu'en fait, certes, il persécutait des chrétiens, certes, il pourchassait des chrétiens, mais en réalité, il luttait contre Christ. Il luttait contre Dieu lui-même. Quatrième chose que l'on apprend dans ce psaume, c'est que le péché relève de ma responsabilité personnelle. Au verset 7, il est dit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Autrement dit, je ne peux pas dire que si je pêche, c'est parce que c'est à cause de ma maman. Certains ont avancé d'ailleurs de manière... étonnante que, justement, cette phrase pourrait laisser penser que David est né d'une mère un petit peu douteuse, etc. Mais rien dans cette phrase ne nous laisse penser ça. Et au contraire, c'est important de souligner que c'est pas la question de où est-ce que je suis né, dans quelles conditions, de quels parents, etc. Je suis déjà marqué par le péché dès avant la naissance. Vous savez, quand un bébé naît, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on lui fait faire plein de petits tests. On le fait, et d'ailleurs, on vérifie qu'il a des réflexes. Il paraît qu'il y en a plus de 70 à la naissance. Le bébé est capable de mettre un pas devant l'autre, il est capable d'agripper, il est capable de téter, il peut redresser la tête, il peut faire toutes sortes de choses qui vont ensuite se développer, mais qui sont déjà là à la naissance. Alors, la capacité à pécher, elle se voit pas forcément... dès les premiers jours, ni dès les premiers mois, surtout dans la famille où tout le monde est parfait. Je plaisante, bien sûr. Vous savez comment les fruits... parfois, on prend une pomme, surtout dans les arbres qui ne sont pas traités. On coupe la pomme, puis à l'intérieur de la pomme, il n'y a plus grand-chose, si ce n'est une grande tresse tracée noire. Parce que la pomme a été mangée par un ver... qui avait besoin de se nourrir pour se développer. Et vous savez comment ces vers entrent dans la pomme ? Il y a deux techniques. La première, bah, c'est tout simplement le ver se balade sur l'arbre, il voit une pomme, il rentre dedans, et puis il fait la fête à l'intérieur. Deuxième technique, c'est qu'en fait, le ver se développe carrément dans la fleur elle-même, qui a été fécondée. Et du coup, le fruit va se développer à partir de la fleur, mais le ver est déjà à l'intérieur. Bah, c'est un peu pareil pour nos vies. Le péché, il est déjà présent dans notre cœur dès la naissance. Et puis parfois après, selon les circonstances dans lesquelles on grandit, mais selon aussi les choix que l'on fait, eh bien, et les influences que l'on peut choisir, eh bien, ce péché peut se renforcer et peut nous transformer. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, David, il est bien gentil ici de nous raconter ça, parce que moi, je suis pas concerné, j'ai pas commis d'adultère, j'ai pas commis de meurtre. Dans l'ensemble, ma vie est très correcte et j'ai pas grand-chose à me reprocher. Bien, je suis tombé sur ce verset de 1 Corinthiens 4 auquel j'avais jamais fait attention, mais en préparant ce psaume, ça m'a frappé, où l'apôtre Paul dit la chose suivante. Il dit « Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. » C'est possible. Ici, Paul le dit, c'est possible d'avoir une conscience qui ne nous reproche rien, de considérer que dans notre vie, bah oui, c'est pas trop mal. Mais écoutez ce qu'il dit après. « Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. » Paul avait une bonne conscience, mais pourtant, il savait que devant Dieu, avoir une bonne conscience, ça ne suffit pas, car seul lui peut dire et nous considérer comme juste. Vous savez, ce qui est assez particulier, c'est que nous voyons notre vie une seconde après l'autre, une minute après l'autre, une heure, un jour, un mois, une année après l'autre. Mais lorsque l'on sera devant Dieu pour être jugé, notre vie, elle ne sera pas reprise une seconde, une minute, une heure, une journée, un mois, une année après l'autre. Il y aura tout d'un coup, bloum, le dossier sur le bureau. Ça va nous faire bizarre. Pile des péchés et de toutes les fois où on a mis autre chose que Dieu sur le trône de notre cœur. Notre bonne conscience ne sera pas suffisante. Cinquième chose que l'on apprend sur ce péché, le péché plonge David dans la détresse. Verset 5, David dit que le péché est constamment devant lui. Il est donc focalisé sur ce qu'il a fait. Verset 10, il explique que ses os sont brisés. Les os que tu as brisés se réjouiront. Il est complètement détruit en réalisant la gravité de ce qu'il a fait. Et pourquoi il est détruit? Parce que verset 13, il est dit « Ne me rejette pas loin de toi ». Il a peur d'être rejeté, il a peur d'être isolé. « Ne me retire pas ton Esprit Saint », verset 13. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans notre vie? Eh bien, c'est de défendre les intérêts de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie juste pour que nous puissions nous sentir bien et avoir l'impression d'être cool. Le Saint-Esprit, il est avant tout pour défendre les intérêts de Dieu, pour que nous puissions être ses représentants. Et enfin, verset 14, David est démoralisé. « Rends-moi la joie de ton salut. » Et il aspire à retrouver la joie que Dieu donne. Le péché plonge donc David dans la détresse. Je répète, David, il est focalisé sur ce péché, il est brisé par son péché, il est rejeté de Dieu, il est isolé de Dieu, il est démoralisé parce qu'il a perdu la joie du salut. Vous savez, il y a deux choses auxquelles Satan aimerait que nous croyions très fortement. La première, c'est que Lorsque je pêche, c'est pas très grave, ça va pas avoir de grandes conséquences. Et la deuxième, c'est qu'une fois que j'ai pêché, ce que j'ai fait, c'est tellement grave et c'est tellement terrible qu'en gros, ma vie est ruinée et que Dieu n'est plus d'aucune utilité parce que de toute façon, il ne pourra jamais me pardonner. Je résume. David nous dit donc ici qu'est-ce que le péché, que le péché nous salit, laisse des traces, que lorsque je pêche contre Dieu, que le péché relève de ma responsabilité personnelle et que le péché peut me plonger dans la détresse en me séparant de Dieu. Et là où ce psaume me remet en question, c'est qu'en fait David ici me demande quel est l'impact du péché sur ma vie. Et je trouve ce verset des Proverbes extraordinaire, et ça a été un tournant dans ma vie. Ce Proverbe 8, verset 13 qui dit « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. » Est-ce que je déteste le péché ? Au point de considérer que péché n'est pas quelque chose qui est un problème en soi, mais c'est quelque chose qui nuit à ma vie, qui nuit à ma relation avec Dieu, mais qui nuit aussi à ma relation avec les autres. Et que finalement, faire le choix de ne pas pécher, c'est faire le choix d'une vie de meilleure qualité. Alors si David ici nous apprend ce qu'est le péché, il est pourtant confronté à un dilemme. Il a conscience que ce qui doit sortir de son cœur, c'est justement le péché et les conséquences du péché qu'il a commises. Ce qui doit entrer dans son cœur, c'est Dieu, c'est la vérité, c'est son esprit, c'est la joie de Dieu. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu ferait-il cela ? Pourquoi Dieu pardonnerait-il David ? Regardez ce que David dit au verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. David connaît bien la loi et à plusieurs reprises dans sa vie de roi, il a été offrir des sacrifices au temple, au tabernacle, puisque le temple n'est pas encore construit. Il a été offrir des sacrifices sur un autel. Il a amené des animaux qui ont été offerts pour qu'il puisse obtenir le pardon de ses péchés. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le début de la Bible, il y a un livre entier qui nous détaille tout ce qu'il fallait faire si tu avais commis tel péché, tu pouvais offrir tel animal, si tu avais fait telle faute, tu pouvais offrir. Même le responsable religieux devait une fois par an aller offrir un animal spécialement pour lui, pour obtenir le pardon de Dieu pour lui et pour le peuple. Mais David n'a rien trouvé dans la loi concernant l'adultère et le meurtre. Quelle solution lui reste-t-il ? David aurait très bien pu s'arrêter là et, vu l'horreur de ce qu'il a commis, se laisser mourir de faim ou bien tout simplement renoncer à la couronne et puis partir dans une grotte et attendre la mort. Quelle solution reste à David ? À 4 reprises, David emploie 2 mots. « Ô Dieu ! » !»« Ô Dieu ! » Et certainement que lorsque David a employé ces mots, il a levé les mains au ciel. Et il a certainement, il s'est mis à genoux et il a imploré « Ô Dieu !» Et voilà l'expression qu'il emploie à la suite. « Fais-moi grâce, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » David a eu conscience que la solution n'était pas dans son cœur. Pour être libéré de la culpabilité de son péché, il n'avait qu'une chose, seule chose à faire, c'était d'apporter son cœur à Dieu, en toute transparence. D'apporter son cœur à Dieu parce que la solution à sa culpabilité était en Dieu, et la solution était Dieu. David a donc remis son sort entre les mains de Dieu, et il a accepté de se soumettre à des valeurs supérieures à la loi qui avait été prescrite par Moïse, et puis à la loi d'Israël dont lui-même pouvait être à l'origine. Le roi David a pris son cœur et en toute transparence l'a apporté à Dieu. Un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur qui certainement aurait pu chanter ce cantique que vous connaissez. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et quelle a été la réponse du roi des rois? David crie à Dieu pour que Dieu lui propose une solution et lui donne une loi qui puisse le sortir de cette situation pour laquelle il ne voit pas d'issue. Et voilà ce qu'il découvre, verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » David réalise qu'il a besoin de passer son cœur à la machine à laver. Il a besoin d'une lessive qui soit tellement puissante que son cœur puisse être purifié, lavé et transformé. Alors, l'hysope, ça vient d'où? Lorsqu'on regarde dans le livre de l'Exode, dans le passage qui nous parle du peuple hébreu qui est en Égypte et qui est sur le point de quitter l'Égypte, eh bien, Dieu annonce qu'un ange va passer sur toutes les maisons du pays d'Égypte et va éliminer tous les premiers-nés. Et voilà le conseil qui est donné au peuple hébreu. Il leur est dit, vous récupérez le sang d'un agneau et vous trempez une branche d'hysope dans le sang de l'agneau et avec cette branche, vous mettez du sang sur les linteaux de la porte. Chaque fois que l'ange passera devant une maison où il y a du sang sur la porte, eh bien, il ne rentre pas dans la maison et cette maison sera épargnée. David a conscience que ce qu'il a besoin, c'est d'un sacrifice, d'un sang particulier qui n'est pas prévu dans la loi telle qu'il la connaît. Il a besoin d'un sacrifice qui est supérieur à tout ce qu'il a pu trouver par ailleurs dans la loi. Ce que David cherchait, c'est le sacrifice que Christ a accompli. Pour que son cœur soit purifié de la salissure du péché, pour que son cœur soit délivré de la culpabilité que le péché a entraînée, pour que son cœur soit réconcilié avec Dieu, eh bien David recherchait Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous connaissons Christ. Christ a accepté d'être revêtu d'une tunique que les soldats lui ont imposée avant de mourir à la croix, une tunique usagée, une tunique sale, une tunique tachée, une tunique qui n'était pas digne de lui. Christ a accepté d'être accusé et d'être condamné alors qu'il était innocent. Et Christ a accepté, sur la croix, de dire « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Christ a accepté d'être séparé et abandonné de Dieu. Christ a accepté cette tunique usée et sale pour que nous puissions être revêtus d'un vêtement blanc, pour que notre cœur puisse être purifié. Christ a accepté d'être accusé et condamné sans raison pour que nous puissions être pardonnés et acquittés alors qu'il n'y a aucune raison que nous le soyons. Christ a accepté d'être séparé et abandonné de Dieu pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Quelle est la clé? Comment est-ce que je peux obtenir cette réconciliation, cette purification, ce pardon de Dieu? Comment David a-t-il pu obtenir ce pardon de la part de Dieu? Eh bien, ce psaume nous parle de cette clé, et cette clé s'appelle la repentance. La repentance. Qu'est-ce que la repentance? Eh bien, David nous dit que la repentance, c'est tout simplement déjà une prière. C'est le fait de parler avec Dieu. Et de parler à Dieu de quoi? Eh bien, de parler à Dieu de son péché. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit que David ici est précis sur son péché. Il parle de ses transgressions, et puis il parle aussi du sang versé. Il avoue son meurtre. David parle aussi de son péché sans aucune justification, sans zone d'ombre, en toute transparence. Voilà ce qu'est la repentance. C'est lorsque simplement je parle à Dieu et je dis à Dieu ce que j'ai fait, en le reconnaissant en toute transparence et sans me justifier. Alors vous allez me dire, oui, mais on voit qu'ici David est un roi, qu'il a un psaume qui est public et qu'il nous invite finalement, qu'il invite en tout cas les responsables à être des modèles de repentance. Oui, c'est vrai, sauf que David était roi et aujourd'hui, dans notre Église, il y a un seul roi, c'est Christ. Et la repentance s'applique aux responsables comme à toute personne qui veut avoir une relation avec Dieu. Toute personne qui souhaite être réconciliée avec le roi des rois. Ce que nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » David demande la restauration de sa relation avec Dieu, et en même temps, il sait que sa restauration avec Dieu va avoir un impact sur son peuple. Il dit même que ça va faire du bien à Sion, au verset 20. De la même manière, chaque fois que l'un d'entre nous fait ce pas de la repentance et prend la peine de demander pardon à Dieu et de se réconcilier avec Dieu, ça lui fait du bien, mais ça fait aussi du bien à l'Église. Et nous sommes chacun responsables et nous sommes chacun au défi de pratiquer cette repentance. Il y a une quinzaine d'années, j'avais lu un livre qui encourageait à chaque matin prendre quelques minutes pour simplement ne plus parler, ne plus lire, ne plus rien faire, simplement dire à Dieu « Je suis à ton écoute ». Et puis pendant plusieurs années, j'ai pris cette habitude de juste faire mon silence dans ma tête pendant 2 minutes et dire « Ok Père, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin ?» Et il se trouve que presque chaque matin, j'entendais cette même phrase dans ma tête. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et chaque matin, le Seigneur me disait, mais sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Et au début, ça m'étonnait. Je me disais, mais cette habitude que j'ai de dire, je veux écouter Dieu, est-ce que ça a du sens? Et puis finalement, le temps passant, je réalise à quel point j'ai besoin de pratiquer la reconnaissance. À un point tel que je me dis, mais si le gouvernement avait une idée géniale d'un impôt qui assure de combler toutes les dettes possibles et de pouvoir construire toutes les routes possibles, ce serait une dette, ce serait un impôt qui consisterait à ce que nous payions 1 euro chaque fois que nous nous plaignons. Puis en réfléchissant, je me suis dit, non, en fait, cette idée, elle est pas géniale parce que du coup, vu que je me plains 10 000 fois par mois, j'aurais plus grand chose à la fin du mois pour m'acheter à manger. L'importance de la reconnaissance dans ma vie quotidienne est quelque chose que Dieu m'a appris il y a une quinzaine d'années en arrière. Et je veux le bénir pour cette habitude qui est vitale. Mais Dieu veut nous apprendre aussi une autre habitude, pas seulement celle de la reconnaissance, mais aussi celle de la repentance. Et la repentance, c'est, dans le cas de David ici, c'est une repentance qui concerne des choses qu'il a faites qui sont horribles et qui sont terribles. Mais Dieu aimerait que nous pratiquions aussi la repentance chaque jour et même chaque heure et même chaque minute. Pourquoi ? Parce que David ici nous parle d'un terme qui est celui de la contrition. La contrition, c'est justement le fait de reconnaître et de réaliser que même si nous avons une bonne conscience, ça ne suffira jamais pour pouvoir nous approcher de Dieu et mériter avoir une relation avec lui. Nous sommes totalement dépendants de la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous permettre d'être suffisamment pur, suffisamment juste, suffisamment bien pour pouvoir mériter de parler avec Dieu et que Dieu nous parle. Je vous propose de terminer avec deux modèles de prière qui peuvent nous encourager à pratiquer la repentance. Et je vous propose un temps de 1 minute de silence après pour réfléchir à ça. Ô Dieu, alors que je me réveille ce matin et que je suis encore dans mon lit, je veux te remercier parce que je n'ai encore rien fait de mal, tout va bien. Je n'ai pas commérée, je n'ai pas perdu la maîtrise de moi-même, je n'ai pas convoité, je n'ai pas été mauvais, je n'ai pas été égoïste, je n'ai pas été orgueilleux. Et vraiment, je veux te remercier pour cela au début de cette journée. Mais dans quelques minutes, Seigneur, je vais me lever de mon lit. Et à partir de là, je vais commencer à avoir besoin de beaucoup d'aide. Amen. Deuxième prière. Quand je me lève le matin, je peux dire « Merci Seigneur pour cette belle journée que je vais vivre. Ô Dieu, j'ai tellement besoin de toi aujourd'hui. Car j'ai besoin que tu purifies mon cœur pour vivre cette journée avec toi. » Tu sais que je suis formaté pour vivre sans toi et j'ai besoin de ton Saint-Esprit en moi pour vivre cette journée selon toi. Car je pense tellement te plaire par mes belles actions, alors que ce que tu souhaites, c'est un cœur reconnaissant envers toi. Je vous propose 1 minute pour penser à cela. Et pour parler à Dieu. Seigneur, merci pour les bonnes habitudes que tu veux mettre dans notre vie, de reconnaissance, aussi de repentance, pour rester toujours en relation avec toi et poursuivre ce trésor extraordinaire de pouvoir te parler et que tu nous parles, de savoir que nous t'aimons et surtout que tu nous aimes. Merci pour l'exemple de David, qui était roi et qui pourtant a accepté d'humblement offrir son cœur et de nous donner une clé pour pouvoir venir à Christ, qui est celui qui est mort pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Merci pour ton amour et la louange que tu mets dans notre cœur pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen.